France Bleu Paris.
Tout ce qui vaut le détour est sur France Bleu. Merci d'être avec nous. Je vous souhaite une très belle fin d'après-midi et plutôt un très bon début de soirée. Il est tout juste 18h. Les infos, le journal présenté par Raphaël Kahn. Bonsoir Raphaël.
Bonsoir Eric, bonsoir à tous.
Dans l'actualité ce soir, la mort de Dick Rivers.
Oui, le rocker est mort à 74 ans d'un cancer avec Johnny Hallyday et Eddie Mitchell. C'était le trio de pionniers de la génération yéyé. C'est un peu la fin d'une époque où vous entendrez l'un de ses vieux amis. Des résidus de béton dans la Seine à Nanterre, Vinci admet avoir déversé des eaux polluées, volontairement ou pas, l'enquête le dira. La nouvelle passe mal pour le conseil régional. 13 maires lancent un appel contre la situation indigne des migrants, ils demandent 40 000 places d'hébergement supplémentaires. La maire de Paris, Anne Hidalgo, se sent abandonnée par l'État. Et puis la colère d'un avocat de Gilets jaunes, selon le Canard enchaîné, les hôpitaux de Paris fichent les manifestants. La direction nie et parle de pratiques marginales, lui parle de mensonges. Un mot sur le temps, Eric ?
Eh bien, ce soir, des pluies, des averses, des orages. Cette nuit et demain matin, point complet à la fin de ce journal. La disparition de Dick Rivers. En deuil, le monde du rock français, Raphaël Kahn.
Le chanteur est mort aujourd'hui à 74 ans. Dick Rivers, c'est un symbole des rockers yéyés avec Johnny Hallyday et Eddie Mitchell. Des hits comme Twist à Saint-Tropez, Faire un pont ou encore Nice, Baie des Anges que vous venez d'entendre, que vous entendez toujours. Après la sortie de ce titre en 1982, Dick Rivers s'est lié d'amitié avec Jean-Yves Daillaud, animateur sur France Bleu Berry pendant 36 ans. Il regrette le décès de son vieux complice.
J'avais un ami qui était dessinateur et Dick l'avait choisi pour faire la pochette de Nice, Baie des Anges. Et comme il ne faisait plus de scène, je l'ai invité de nombreuses fois à la radio. C'était un ami très proche. Il venait assez régulièrement à l'époque où il était beaucoup plus libre à la maison, aussi bien que j'allais le rencontrer, que ce soit sur les scènes ou autre. Mais c'était un passionné, c'était quelqu'un, en dehors du fait d'être chanteur, il s'intéressait à beaucoup de choses. Évidemment, bon, il a fait partie de ce qu'on a appelé la trilogie. Johnny nous a quittés il y a très peu de temps. Aujourd'hui, c'est Dick. Et malheureusement, Eddie a chanté en 65. S'il n'en reste qu'un, je serai celui-là. Ça va très vite, tout ça. Ça me fait un peu peur, quand même.
Un peu la fin d'une époque, comme l'explique Jean-Yves Daillaud. Les berges de la Seine à Nanterre polluées par des résidus de béton près du chantier d'extension du RER E. Le géant du BTP le reconnaît mais parle d'incidents exceptionnels. À l'origine, la découverte a été faite par des pêcheurs qui ont porté plainte. Selon eux, il s'agit de l'eau utilisée pour rincer les toupies à béton, rejetée donc volontairement. L'enquête le déterminera. Jean-Philippe Dugouin-Clément, chargé de l'écologie au Conseil régional d'Île-de-France, n'en revient pas.
Je suis complètement stupéfait et scandalisé qu'on ait une pollution de cette ampleur qui, visiblement, sur ce qui nous en est dit, sous réserve de ce que déterminera l'enquête, mais qui est volontaire. C'est quelque chose d'absolument inimaginable de la part d'un groupe comme Vinci et qui, en tout état de cause, est inacceptable et doit être sanctionné extrêmement fortement, a fortiori s'il s'avère qu'on est sur une pollution volontaire. Dans tous les cas, il y a une pollution majeure qui devra faire l'objet d'une dépollution intégrale de la part de Vinci. En l'espèce, le pollueur doit être le payeur. Après, si cette pollution est d'origine volontaire, c'est quelque chose qui aura des poursuites pénales. Et en tout cas, c'est des pratiques qui sont d'un autre temps et qui sont absolument inacceptables et intolérables en France au XXIe siècle de la part d'un groupe comme Vinci.
La police de l'eau est chargée de l'enquête. La région Île-de-France se réserve le droit de porter plainte. Le gouvernement veut déroger aux règles pour rebâtir Notre-Dame. Un projet de loi a été présenté en Conseil des ministres aujourd'hui. Dans ce sens, il permettra de décider par ordonnance et donc d'éviter, par exemple, l'obligation de marché public ou encore les lois de protection du patrimoine.
18h04, à la suite du journal, Raphaël Kahn, 13 maires lancent un appel pour les migrants.
Les maires de Grenoble, Toulouse, Bordeaux, Montpellier, entre autres, et bien sûr Paris avec Anne Hidalgo. Ils dénoncent une situation indigne et réclament 40 000 places d'hébergement supplémentaires. Ils l'ont exigé dans une lettre au ministère de l'Intérieur et à celui du Logement. Mais Anne Hidalgo, la maire de Paris, se sent un peu fatiguée de demander des actions.
Pourquoi toutes ces personnes sont à la rue? C'est parce qu'il n'y a pas d'accueil inconditionnel dans les centres d'hébergement d'urgence. Et aujourd'hui, le sentiment que nous avons, nous les maires, c'est que nous sommes abandonnés, que lorsque le problème n'est pas visible, on ne le traite pas, qu'on ne le traite que dans l'urgence. Il faut qu'il y ait un campement, que tout le monde s'énerve, que je monte au créneau, que je dise « mais que fait l'État ?», que les associations interpellent l'État pour que on déclenche des mises à l'abri qui, en fait, se font dans des conditions telles que le lendemain, on a autant de monde sur le trottoir. C'est vraiment un problème qui va durer encore longtemps. Et donc l'appel que nous faisons, les maires de tous bords, c'est de nous réunir avec l'État et avec les associations, qu'on se réunisse et qu'on trouve effectivement les solutions d'hébergement et que ce soit équitablement réparti.
Selon le dernier comptage réalisé par l'association France Terre d'Asile, entre 800 et près de 1500 personnes vivent sous des tentes à Paris. Le Conseil d'État juge légal l'arrêt des soins pour Vincent Lambert. Il est en état végétatif depuis 2014. Ses parents ont déposé un recours contre cette décision prise par le CHU de Reims. Recours rejeté donc par la plus haute autorité administrative française. Les avocats des parents de Vincent Lambert se tournent maintenant vers la Cour européenne des droits de l'homme. Les hôpitaux de Paris ont-ils fiché les gilets jaunes? C'est ce qu'affirme ce matin le Canard enchaîné. APHP aurait conservé les données médicales de manifestants dans un fichier. La direction d'hôpitaux de Paris dément avoir fiché des gilets jaunes, mais admet plus d'une dizaine d'utilisations inappropriées du système de suivi des patients. Des explications qui ne convainc pas l'avocat d'un des gilets jaunes concernés. Maître Harry Halimi a décidé de ne plus les croire.
Il y a d'abord eu Martin Hirsch qui avait déclaré le 14 avril qu'il n'y avait pas de données nominatives sur les gilets jaunes dans le cadre de ce fichage. Il a été démenti par lui-même puisque il y a eu un communiqué de presse par la suite de la PHP qui dit effectivement c'est le fichier civique donc c'est forcément nominatif, mais pas de violation du secret médical. Et puis troisième communiqué aujourd'hui après les révélations à nouveau du Canard enchaîné où la PHP reconnaît qu'il y a eu une violation du secret médical en modérant et avec quelques euphémismes en disant que ça concernerait quelques hôpitaux. Moi, compte tenu des mensonges successifs, avec le dernier qui vient de s'ajouter aujourd'hui, à savoir celui du ministère de l'Intérieur, qui prétend qu'il n'a pas accès au fichier civique, alors que c'est écrit noir sur blanc dans le décret que ce civique est consultable par le ministère de l'Intérieur par l'interface Sinus, eh bien, moi, ces mensonges, j'en ai un petit peu assez, et je demande la suppression immédiate et intégrale de ce fichier civique qui a été constitué pour ces victimes.
Maître Harry Halimi, au micro France Bleu.